Selon la tradition kabbaliste, elle est beaucoup plus à l'aise par rapport à l'histoire, puisqu'elle tente de plonger profondément dans les structures du message biblique, indépendamment de l'ordre des événements. On situe Job chaque fois qu'il y a un temps de passage d'une étape de civilisation à l'autre. Nous avons un célèbre texte aussi dans le Talmud lui-même, qui situe Job à chacune des époques de mutation d'identité dans l'histoire d'Israël et à travers le focal de l'histoire d'Israël dans l'histoire de l'humanité. Et elle définit Job comme étant le juste de l'ancien temps, mais qui souffre de ne pas pouvoir passer dans le temps suivant. Et on n'a rien à lui reprocher d'après les critères de son propre temps, ce n'est non pas donc une faute d'acte qu'on pourrait lui reprocher, il n'a rien fait qui soit répréhensible, mais apparaît là une catégorie hébraïque assez importante, une faute d'être. Et je le dirai très rapidement en me référant à la préface du livre de Job, et nous reviendrons immédiatement à l'Ecclésiaste. La préface du livre de Job nous montre l'histoire de cette famille. Tous les jours de la semaine, des fêtes, le monde heureux. On est juste, on est heureux, et les enfants de Job passent leur jour à s'inviter. Chaque jour, un enfant invite ses frères.
Pour faire la fête, oui.
Pour faire la fête.
Mais
la fête,
dans le sens ça inquiète Job, d'ailleurs, parce qu'il fait des prières.
Très exactement. Et cependant, au matin de chaque nuit, après le festin, Job offre des sacrifices d'expiation préventifs, de peur que dans leur bonheur, ses enfants aient blasphémé. Et c'est là précisément que l'explication de notre thème. C'est-à-dire que à lui, on ne peut rien reprocher, mais il n'est pas sûr de la suite, il n'est pas sûr de ses propres enfants. Et donc, il est effectivement juste dans les critères de son temps, mais il ne peut pas ni voir ni affirmer ce qui se passera après, il doute de ses propres enfants. Voici comment l'enseignement kabbaliste formule tout cela, en disant que Job ne croyait que dans ce monde-ci et ne croyait pas dans le monde à venir. En fin de compte, après son épreuve, il recevra le double de ce qu'il avait perdu, et donc il sera comblé à l'intérieur des critères de ce monde-ci. Mais, en fait, ce qu'il manque à Job, c'est cette dimension-là, qui va être reprise très exactement par l'Ecclésiaste à l'échelle universelle. Et c'est pourquoi l'enseignement kabbaliste situe Job, chaque fois qu'il y a un temps de passage, d'une époque de l'histoire hébraïque à l'autre. Par exemple, on le situe au temps des patriarches, et c'est, dans la comparaison symbolique, c'est le père d'Abraham lui-même, Terach, Taré en français. Avant que Abraham n'apparaisse dans cette nouvelle manière d'être juste, au-delà des critères plus anciens, c'était Terach qui était le juste sur terre. Tant que, nous dit le texte auquel je me réfère, le texte de Kabbalah auquel je me réfère, tant qu'Abraham n'était pas circoncis, Terach était considéré comme juste. Dès qu'Abraham a accepté la nouvelle alliance de la circoncision, alors Terach est renvoyé, disqualifié si j'ose dire, du point de vue du déroulement du temps, du déroulement messianique du temps. Et il commence à souffrir, et il ne comprend pas pourquoi, jusqu'à ce que Abraham réussisse à l'intégrer dans sa découverte du monothéisme. Terach était, nous dit le Midrash, fabricant d'idoles.
Bah, il est coupable sans que ce soit sa faute, là.
Il est coupable sans faute. C'est une sorte de culpabilité d'être et non pas de culpabilité d'acte. Et donc, nous n'avons pas en français des termes suffisamment clairs pour ne pas risquer d'être injuste.
Tant mieux, parce que c'est un drôle de concept.
C'est un concept extrêmement terrible, mais indispensable pour comprendre le sens de cette histoire telle que la raconte la Bible, de toute l'histoire que raconte la Bible. Ça se réfère en particulier, ce sera peut-être un peu plus simplement éclairant, au concept des souffrances d'épreuve. Ce ne sont pas des souffrances de châtiment, mais une sorte de signal qu'il faut monter plus haut dans l'ascension et dans le progrès spirituel. C'est une sorte d'avertissement.
Ah oui, c'est ça, la souffrance comme avertissement.
Hein. La souffrance comme avertissement.
Dieu qui parle en envoyant la souffrance pour précisément surprendre l'être humain.
Pour indiquer, c'est un signal d'alarme, qu'il y a à progresser dans l'histoire et que si on fait du surplace, alors on souffre de ce surplace sans comprendre pourquoi on n'avait fait aucune faute par rapport aux critères anciens. Il y a une vue d'emblée messianique de ce problème. C'est d'ailleurs ce surplace lui-même qui implique ces souffrances. Et donc, dans un premier exposant, si j'ose dire, on va indexer l'identité de Job en ce temps-là. De l'humanité tout entière, un homme surgit, Abraham. La manière d'être juste précédente se trouve d'une certaine manière disqualifiée et souffre de cette disqualification et ne comprend pas pourquoi. D'autre part, l'Ecclésiaste, lui, le fils de David, il vient après le temps qui a commencé à Abraham. D'une certaine manière, Job, c'est un Ecclésiaste avant Abraham, et l'Ecclésiaste, c'est un Job après le temps qui va d'Abraham à David. La question de l'Ecclésiaste est beaucoup plus grave. Parce que, entre-temps, la révélation biblique a eu lieu, d'Abraham à David, disons. Et par conséquent, à l'homme qui était en quête d'un sens de la destinée du monde et de sa destinée propre, la réponse avait été donnée.
Que la question, là, maintenant, dans l'Église, tout est remis en cause.
Que la question de Job se pose avant le temps d'Abraham, ça reste encore compatible à la cohérence biblique. Mais qu'elle se pose après David, alors c'est beaucoup plus profond.
Ça veut dire que le premier Messie, si j'ose dire, a raté son coup.
Non, ça veut dire que, précisément, parce qu'il y a eu réussite, et que le temps dure encore, on ne comprend plus le temps. On avait une certaine espérance, et elle a duré longtemps à être accomplie. Et voilà qu'elle est accomplie, et que le temps dure. Le fils de David a un problème que le père d'Abraham n'avait pas. Et c'est pourquoi donc c'est Kohelet ben David qui nous est dit ici, et roi de Jérusalem, l'Ecclésiaste, fils de David. On ne lui donne pas seulement son nom de Salomon, fils de David, mais l'Ecclésiaste, fils de David. La question de la sagesse qui se pose au fils de David comme fils de David, roi de Jérusalem. D'une certaine manière, si vous voulez, l'espérance messianique avait réussi. Le fils de David est roi de Jérusalem. Et voilà que le temps dure et que se pose la question du sens du temps.
C'est ça. C'est qu'on ne peut pas s'endormir dans l'ère davidique avec les prophètes de cette époque qui nous ont dit ce qu'il fallait faire, etc. On ne peut pas s'endormir parce qu'au fond, on est encore sur la terre et que la terre, c'est le temps. Et qu'au fond, le temps vient creuser par derrière même les assurances les plus certaines.
D'une certaine manière, d'ailleurs, voyez-vous, là, c'est très exact. C'est-à-dire la question du sens du temps et la tentation de retomber dans la conception du temps cyclique qui ramène l'ennui et qui ramène le pessimisme et la désespérance se pose après une réussite. C'est la question posée à Kohelet. Et d'ailleurs, cette perspective a beaucoup préoccupé la conscience chrétienne elle-même qui parlera de la parousie. C'est-à-dire le Messie est déjà venu, je parle de la cohérence chrétienne, mais tout se passe comme si, tout continue comme si rien ne s'était passé.
Et oui, parce qu'on dit qu'il doit revenir, mais c'est comme s'il n'était pas venu.
C'est cela. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Petite parenthèse qui me semble importante sur ce point. On dit souvent, mais le parallélisme n'est que verbal, qu'au fond, la messianité juive et le messianisme chrétien sont très parallèles. Finalement, les uns attendent que le Messie vienne enfin une fois, les autres attendent qu'il revienne. Mais en fait, je voudrais indiquer qu'il y a là quand même deux messianités quand même assez différentes. En ce sens que la messianité hébraïque attend un Messie qui vient, alors que la messianité chrétienne attend un Messie qui revient. Et ce n'est pas du tout la même chose du point de vue de l'enseignement biblique. Il y a là l'introduction d'une dimension grecque à proprement parler, qui est absolument étrangère à la mentalité hébraïque.
Vous voulez dire que dans le Messie qui revient, il y a l'idée d'un cycle?
Oui, d'une certaine manière. Cette
conception cyclique du temps serait grecque et n'aurait rien à voir avec la conception juive.
D'une certaine manière, oui, certainement. Et nous sommes très, très au centre du sujet. Et en tout cas, voilà, si vous voulez, pour ce que je voulais citer pour les présupposés de l'Ecclésiaste, en tant que l'homme de la sagesse, fils de David, à Jérusalem. Il va dire son espérance en dialoguant avec les postulats de l'homme de la désespérance. En son temps, le problème a réapparu. C'est après la réussite de l'espérance davidique et de ce qu'elle a donné au monde entier. Le monde a un sens, il y a un salut possible. Dieu est revenu sur terre d'une certaine manière, non pas dans le sens païen, mais la parole de Dieu est revenue sur terre. C'est un temps très ancien. Pour nous, il est très, très immédiat. Je veux dire, pour nous, c'est presque une contemporanéité. Mais dans l'histoire universelle, c'est un temps très ancien. Mais aujourd'hui, spontanément, lorsque l'homme, en tout cas de la culture qui a été touchée par la diffusion biblique, et à travers, d'ailleurs, je pense, la culture contemporaine, beaucoup d'intuitions de la Bible ont passé partout, même dans des sociétés qui n'admettent pas les postulats religieux du message biblique, lorsque l'homme a tendance à prier, eh bien, il sait que le recours ultime, c'est le Dieu à qui David a chanté les psaumes. Et donc, d'une certaine manière, l'espérance que David a réalisée sur terre est une réussite. Et ceci dit, le temps dure. Alors on est renvoyé au problème du sens.
C'est terrible ce que vous dites. Alors on ne peut plus, en cas de désespoir, on ne peut plus chanter les psaumes. Parce
au
que
contraire,
déjà.
Mais il faut les chanter en tant que fils de David.
C'est ça, de l'époque suivante.
Oui, lorsque le fils de David chante les psaumes, alors c'est qu'il a d'autres raisons encore de ressusciter l'espérance. Alors nous sommes renvoyés au schéma du temps biblique. Et je vais essayer d'expliquer ici d'où vient cette conviction absolue, proprement hébraïque, que malgré toute apparence, et surtout ces apparences qui viennent du long temps de la durée, c'est extrêmement long le temps d'une civilisation, le temps mène quelque part. Le temps mène, et alors j'aborderai le vocabulaire un peu plus traditionnel que j'expliquerai, nous vivons le temps du septième jour, des jours du commencement, du premier récit de la Bible, mais nous savons que le septième jour mène à un huitième jour. C'est ça la conviction de l'Ecclésiaste. Il dit sept fois vanité, mais il peut discuter la vanité du monde parce qu'il sait que le septième jour mène à un huitième jour. Et voici de quoi il s'agit.
Dans la Genèse, au chapitre 1er, on peut lire l'œuvre des six jours de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour.
Lorsque nous reprenons le premier récit du commencement de la Bible, voyons que le récit de l'œuvre de chacun des jours du commencement est scandé par une sorte de refrain. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2e, jour 3e, etc. Jusqu'au jour 6e, qui est le jour où l'homme apparaît. Et puis commence le récit du 7e jour, où Dieu cesse d'intervenir comme créateur, l'histoire de l'homme commence, et nous sommes encore dans ce long 7e jour, amorcé au commencement, à la sortie du 6e, si j'ose dire. Lequel 7e jour, où est logée toute notre histoire? Je le montrerai très rapidement d'après le texte lui-même. Ah, lui-même, ses temps de naissance, de manière d'être, ses apogées, ses retombées, ses chutes, ses résurrections, ses émergences. Mais c'est à l'intérieur d'une vision que le septième jour est inachevé, mais que nous savons qu'il va s'achever. Et pour déboucher sur un huitième qui, a posteriori, nous expliquera ce qu'était le sens du septième. Nous retrouvons donc l'enseignement précédent. Effectivement, vous verrez que dans le texte biblique, il n'est pas écrit « et ce fut soir, ce fut matin, septième jour ». C'est-à-dire comme si l'intention du récit est bien de nous situer dans ce septième jour. Nous sommes dans la septième marmite, si j'ose dire, d'après le Midrash.
Mais ce n'est pas le jour du repos, le septième jour.
Un huitième. Écoutez, ça, ce sont les termes qui finalement dérivent des traductions. Que dire, j'essaierai de discuter un peu cette traduction, parce qu'elle est importante pour comprendre la suite. Dire que Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième, c'est deux fois inexact en hébreu. Parce que le concept de création ne porte pas sur l'œuvre des six jours, mais sur l'instant du commencement. Créer, ça veut dire faire apparaître à partir du néant. C'est l'instant du commencement qui est création. Et ensuite, il y a agencement, façonnement de cette matière première du monde créée au commencement, et cette œuvre du commencement dure six jours. Mais la création ne dure que l'instant du commencement. Si vous voulez, nous reprenons le premier verset en français même. Au commencement, Dieu créa ce qui deviendra le ciel et la terre. Il y a un terme hébreu qui est dans le texte hébreu qui ne peut pas être traduit dans une autre langue parce que ça indique le complément d'objet. Au commencement, Dieu créa le ce que du ciel et le ce que de la terre. Et c'est l'instant du commencement. Mais l'idée que Dieu crée en six jours et puis se repose est une idée difficile à entendre en hébreu, le repos de Dieu. Ça signifierait qu'il s'était fatigué. C'est un peu anthropomorphique, cette traduction. Mmh. En réalité, le terme hébreu signifie « cesser d'intervenir », »,« cesser d'agir ».
Il chôma, moi j'ai dans ma traduction.
Oui, c'est le terme de Shabbat. Alors, Shabbat, par rapport à Dieu, ça veut dire « cesser d'intervenir », par rapport d'ailleurs à tout être de volonté qui interdit à sa volonté d'intervenir.
Ah, mais alors, il chôma, c'est-à-dire il cessa d'intervenir, c'est pourquoi il est absent de notre monde aujourd'hui.
C'est pour ça, apparemment, il est caché. Pour que l'histoire puisse se développer librement. Lorsque l'histoire est en danger, il intervient. C'est pourquoi les miracles sont normalement très rares. Pour un croyant, nous sommes dans un temps de miracles perpétuels, toujours, chaque jour, à chaque instant. Mais c'est un autre problème, c'est un autre registre. Mais nous ne sommes pas dans un temps de miracles spectaculaires, comme le caractère spectaculaire des miracles visibles, évidents, expérimentables comme tels, des miracles que raconte la Bible. Mais pour un croyant de la croyance biblique, il est bien évident que, tout entendu de l'enseignement biblique, nous avons conscience à chaque instant que nous vivons un temps miraculeux, d'événements que les forces humaines, seules, quelle que soit sa capacité considérable de science et de technique dans le temps contemporain, pourraient expliquer. Je me réfère, bien entendu, vous le devinez, surtout à ce qui se passe pour le peuple juif. Nous vivons des péripéties de récits bibliques. Mais tout ceci est sous l'apparence de caché. Pas caché pour tout le monde, parce qu'il y a des yeux ouverts. Mais malgré tout, il ne s'agit pas seulement des yeux de la foi, mais vraiment du diagnostic historique que ce qui se passe est de l'ordre du récit biblique. Bon, je referme cette parenthèse. Votre remarque de tout à l'heure est très importante. Effectivement, c'est la manière dont la Bible nous explique pourquoi notre monde prend l'apparence de la nature, d'un monde qui, apparemment, marcherait tout seul, Dieu caché. C'est un peu dans le sens du Dieu caché de Pascal.
C'est parce que Dieu est en Shabbat.
Oui, mais intentionnellement, pour donner une base à la liberté humaine. La garantie de ce Shabbat de Dieu, donc de la liberté dans le monde, étant tout simplement ce que nous appelons les lois de la nature. Les lois de la nature garantissent l'ordre sur lequel la liberté humaine peut être fondée. Si les lois de la nature changeaient, notre liberté s'évanouirait. Elle est garantie par le déterminisme. Il y a là une indication très importante, parce que toutes les philosophies opposent déterminisme à liberté, alors que l'objet de l'enseignement biblique est au contraire de fonder la liberté sur le déterminisme. C'est bien parce que le monde est déterminé que nous pouvons être libres. Voilà donc que l'intuition de la messianité hébraïque est que nous sommes dans un septième jour inachevé. Et c'est cela la conviction de l'Ecclésiaste. Il s'adresse à ceux qui pensent que le septième jour était achevé. Et alors, comme la réalité du monde est encore ce septième jour, penser que le sens du monde s'est achevé dans un paradis ancien, comment dire, le paradis est toujours au passé, dans un jadis bienheureux, renvoie de façon absolue la désespérance parce que le temps dure.
Et parce que après, alors, on se demande où on va.
Si tout ce qu'il y avait à atteindre du point de vue du sens du monde est déjà atteint, pourquoi le temps dure? Et c'est l'ouverture du texte. Découvrez que le temps dure encore. Donc, s'il n'y a pas de huitième jour, l'absurdité du monde est absolue.
Si le temps dure encore, si la visée d'une fin de l'histoire, d'une fin du temps disparaît, alors en effet, la désespérance de l'Ecclésiaste est absolue. Témoin, ce tableau stupéfiant de l'activité humaine que nous allons entendre, autant de mal que de bien, donc ni paradis ni enfer, donc enfer, aucun sens, absurdité totale. À moins que...
Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin.
Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson.
Si vous me permettez, j'aurais une petite parenthèse et très rapide. Je pense qu'il y a là une ligne de démarcation des trois grandes traditions issues de la Bible. La tradition juive qui situe le jour de la relation au Créateur, le septième jour, c'est-à-dire le samedi dans la semaine occidentale. La tradition musulmane qui le situe le sixième jour. Et la tradition chrétienne qui le situe le lendemain du septième jour, c'est-à-dire dans un huitième qui serait déjà apparu. Si vous voulez, pour parler essentiellement... puisque le contexte général de la culture contemporaine est chrétien, en Occident...
Attendez, il faut peut-être préciser que ça correspond au jour de congé du vendredi chez les musulmans, du samedi chez les juifs...
Et du dimanche.
Du dimanche chez les chrétiens.
Qui, d'après la semaine biblique, le septième jour de la semaine est le Shabbat, et le jour du samedi. Lorsque la tradition chrétienne a été fondée, elle a déplacé ce jour-là au huitième... ce qui est très exactement parallèle à sa conscience théologique que le Messie est déjà arrivé, que le septième jour s'est achevé et qu'on est entré dans le huitième. Alors que dans les perspectives de la conscience théologique musulmane, on est encore dans le sixième jour. Dieu seul fait tout. On est encore avant l'émergence de l'homme dans le temps de liberté.
C'est pourquoi il n'y a pas de messianisme musulman.
Et en tout cas dans l'islam officiel, mais il y a des tendances théologiques messianiques.
Chiisme, oui, bien sûr.
Chez les musulmans, très, très profondément mystiques. Ça existe aussi, mais c'est moins officiel que, par exemple, dans la messianité juive ou le messianisme chrétien. Alors, nous avons là quelque chose d'assez analogue, ce qui fait que, d'une certaine manière, il n'y a pas de doute que la lecture traditionnelle juive de l'Ecclésiaste et la lecture traditionnelle chrétienne se démarquent. J'essaierai de l'expliquer de la manière suivante. D'une façon générale, dans le récit de la Bible, et là je me réfère aussi à une remarque du professeur Néer, il n'y a pas de livre tragique. C'est-à-dire... tout est dramatique, tendu. L'histoire, c'est sérieux. Et vraiment, c'est un effort d'engendrement. Et les douleurs de l'enfantement. Tout est dramatique. Mais rien n'est absolument, rien n'est en fin de compte tragique, c'est-à-dire sans solution. Et d'une certaine manière, et beaucoup de nos textes traditionnels l'indiquent, la conscience du désespoir, la conscience du tragique, c'est le blasphème fondamental. C'est l'impiété fondamentale. J'étais très frappé de retrouver cela dans un livre d'un philosophe chrétien existentialiste, Kierkegaard, dans le traité du désespoir, où il le dit à plusieurs reprises de façon extrêmement biblique, extrêmement authentiquement hébraïque.
C'est l'idée que le désespoir est un péché.
Est en elle-même le péché fondamental. Elle est incompatible avec cet optimisme que sous-tend la prophétie hébraïque. Que derrière l'apparence de la réalité comme apparence, si j'ose dire, que nous vivons dans une nature où cyclique, et du point de vue du temps, et du point de vue des événements, et qui renvoie au rêve l'espérance d'un sens à la destinée, qui est le contenu fondamental du livre de l'Ecclésiaste, que derrière cette expérience, il y a une espérance fondamentale, que notre septième jour n'est pas encore achevé, et que le Messie viendra. Et voyez la différence entre le Messie qui vient et le Messie qui revient. Et que nous débouchons vers un huitième jour.
Optimisme donc, sans doute, Léon Ashkenazy. Que serait la Bible sans une espérance totale, absolue et fulgurante? Mais c'est la Kabbale qui le dit, et peut-être aussi les deux derniers versets du livre de l'Ecclésiaste, et on peut se demander si ces versets n'ont pas été rajoutés. Car pour le reste, tout l'Ecclésiaste est rempli des accents d'une lucidité qu'on ne retrouvera peut-être que chez un La Rochefoucauld, une lucidité finalement ambiguë et indécise. Au-delà de l'optimisme ou du pessimisme, on ne sait pas.
Le sort de l'homme et le sort de la bête sont un sort identique. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et c'est un même souffle qu'ils ont tous les deux. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout s'en va vers un même lieu. Tout vient de la poussière. Tout s'en retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte vers le haut et si le souffle de la bête descend en bas vers la terre?
On ne sait même pas si l'homme n'est pas une bête ou si les bêtes ne sont pas des hommes, les uns et les autres matières perdues et indifférentes dans l'univers. Mais Léon Ashkenazy veut nous faire retourner à l'espérance messianique.
Si vous lisez l'ensemble du récit biblique, il est frappant de voir que c'est le même récit qui se reprend deux fois. Une fois à partir du premier homme, et où tous les thèmes d'identité de l'histoire humaine nous sont décrits à la manière de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire avec un sempiternel retour à l'échec inévitable. Et ce même récit est repris à partir d'Abraham, menant à l'identité d'Israël. Ce sont les mêmes thèmes d'identité qui se lisent en filigrane de parallèle, mais qui mènent à l'espérance d'une issue possible. En particulier le problème qui s'était posé au fils de David, Salomon, Shlomo, le problème de Caïn tuant Abel. Et nous voyons que, inévitablement, cela mène au déluge, la civilisation humaine se détruisant elle-même.
Oui, quand Dieu en a assez de tous ces meurtres qui
quand le sursis
peuplent
prend,
la terre.
Quand le sursis prend fin, et l'histoire a de ces sursis très longs. Mais en fin de compte, les civilisations ont toujours un point de départ. Elles découvrent que la véritable consigne, c'est bien ce commandement de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », de telle sorte que l'histoire soit vivable. Et puis, en fin de compte, elles ont une apogée. Mais comme ce commandement n'a pas été réalisé en fait, alors il y a un déclin, une disparition. Et c'est sempiternellement le retour du temps qui est dit le temps sous le soleil. Alors que le récit qui commence à Abraham reprend les mêmes thèmes d'identité, mais dans la perspective de la réussite, en particulier sur ce thème précis et très illustrant, c'est finalement l'issue de l'amour entre Joseph et ses frères qui clôt le livre de la Genèse. Et là, l'identité humaine connaît ce véhicule théophore, si j'ose dire, porteur de la promesse, de l'espérance qui est l'identité d'Israël. Or, ça me mène à une autre expression caractéristique de l'Ecclésiaste et qui est passée dans le langage courant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Midrash l'explique de la manière suivante. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais au-dessus du soleil, oui, il y a quelque chose de nouveau. Sous le soleil, il n'y a pas de surplus. Profit, comme on traduit les traductions, c'est-à-dire l'effort moral ne semble pas avoir d'objectif, d'objet, de portée.
Oui, puis alors même quand le travail d'un homme réussit quelque chose, de toute façon, c'est son enfant qui en aura la succession. Par exemple, on ne sait pas s'il est sage ou fou.
Par exemple. Ce qui donne une tonalité d'absurdité à la destinée humaine, lorsqu'on veut être lucide et voir avec des yeux absolument ouverts quel est l'état du monde naturel. C'est-à-dire l'homme, dans une histoire cosmologique, est renvoyé aux philosophies pessimistes. Et d'ailleurs, je me demande si très profondément il y en a d'autres de philosophies que les philosophies pessimistes. D'une certaine manière, toute philosophie est pessimiste. Il arrive parfois que le philosophe soit d'autre part un croyant et reçoive, incarnant lui, l'espérance biblique, mais c'est d'autre part.
Oui, d'ailleurs, toute philosophie est pessimiste parce que toute philosophie revient d'une manière ou d'une autre à expliquer le mal et à le rendre, à présenter le mal comme normal.
Peut-être pas toutes. Il y a des philosophies qui réagissent contre le scandale du mal. Et non, je dirais tout simplement parce que c'est la philosophie, c'est la pensée de l'homme seul, se connaissant comme seul. La sagesse n'est pas quelqu'un qui répond, c'est moi-même qui réponds à mes questions. Et bien évidemment, lorsque le philosophe est lucide et qu'il sait très bien que c'est lui l'homme qui répond aux questions de l'homme, il sait que ça n'a pas de portée, en fin de compte, par rapport à la question qu'il avait posée. Ma destinée a-t-elle un sens ? Donc, dans le principe, toute philosophie est pessimiste. C'est la grandeur, d'ailleurs, de l'esprit philosophique. Mais c'est en même temps l'échec insidieux de la recherche de la sagesse. C'est un peu ce que dit le philosophe. Si vous êtes dans un monde se refermant dans la solitude du monde, alors sachez que votre pessimisme doit aller jusqu'au bout. Même la sagesse est vaine. Même cette sagesse-là est vaine.
Le salut ne peut venir que d'ailleurs.
Le salut ne peut venir qu'en tout cas que si le pressentiment que nous avons d'un ailleurs est fondé. Déjà, sous forme immanentéiste, sans faire encore appel aux catégories de la transcendance, qui sont les catégories hébraïques de base, mais qui sont peut-être moins familières dans la culture contemporaine, il s'agit là d'une messianité totale, absolue, qui concerne chaque individu, en quelque temps qu'il ait vécu, ce qui évacue le pessimisme d'une génération vient, une génération passe, etc. Selon le Midrash qui explique cette expression, il faut comprendre que dans la conscience hébraïque, il y a eu deux consciences du temps très différentes, qui sont appelés le temps du soleil et le temps de la lune. Le temps du soleil est un temps cyclique. Chaque année, à sa naissance, son apogée, sa fin, et lui succède une deuxième année qui reprend les mêmes structures, les mêmes rites, avec un contenu dont le style est apparemment différent, mais qui est en fin de compte une répétition. Et ainsi, c'est étendu par le Midrash à l'histoire des civilisations. Les civilisations ont une naissance, une apogée, un déclin, une fin, et elles sont remplacées par d'autres civilisations qui recommencent la même aventure humaine dans un autre style, mais finalement c'est répétitif. Et au fond, pas seulement l'ennui, mais la désespérance vient de ce sentiment que le temps, au fond, n'est que répétitif. Mais ça, c'est le temps du soleil. La conscience du temps, qui est nommée dans le Midrash, temps de la lune, est tout autre. C'est un temps de renouvellement. C'est-à-dire, la lune a des phases de renouvellement perpétuel, et donc qui envoie la conscience de l'éternité traversant le temps. Traversant le temps qui, lui, est répétitif.
Alors, rien de nouveau sous le soleil, mais sous la lune, alors, tout est autre chose.
Et je le dirai très rapidement dans la correspondance hébraïque, le mot « année » solaire en hébreu, c'est le mot de « shana », qui est de la même racine verbale qui signifie le deuxième, « sheni ». C'est un changement qui fait que le deuxième est autre par rapport au premier et détruit le premier. Tandis que le mois lunaire, c'est le mot « chodesh », qui est de la même racine que chidush, qui signifie renouvellement, et qui se rattache au mot de echad, qui signifie un. Chaque mois est lui-même, et avec les phases d'apogée de la lune, et on voit très bien ce cycle de recommencement perpétuel, alors que la conscience du temps du soleil est l'année, dans le sens de la grande année de Nietzsche, par exemple, du temps cyclique.
Mais vivons-nous sous la lune ?
C'est extrêmement important de voir que tous les calendriers traditionnels ont eu une perplexité de savoir comment fixer le rythme du temps de commémoratif. Et en particulier, non seulement le calendrier des commémorations à proprement parler, mais ça signifie que chaque calendrier traditionnel implique toute une conception de l'histoire. Or, il est frappant de voir que le calendrier hébreu est le seul qui connaisse la correspondance des deux rythmes du temps. Les années sont solaires, et les mois sont lunaires. Et il y a une correspondance très précise des phases de la Lune avec les phases du Soleil. En court-circuitant un peu, si vous voulez, cette notion, nous disons que le calendrier hébraïque est monothéiste en ce sens-là. Ce n'est pas la force du Soleil qui est reconnue comme l'absolu. Ce n'est pas non plus la force de la Lune qui est reconnue comme l'absolu, mais la correspondance des deux, l'unité au-delà des deux dimensions. Et nous avons l'habitude de citer un midrash important, l'histoire d'Abraham, à ce propos. Comment Abraham a découvert, par sa propre expérience, l'évidence du monothéisme, qui deviendra le monothéisme d'Abraham, du Dieu unique. Le midrash raconte ceci. Abraham, enfant, était dans une caverne. Il sort de la caverne pendant la nuit, et il voit la lune et les étoiles. Cette splendeur de la lune et des étoiles, la lune essentiellement, le frappe, et il se met à adorer la lune. Le lendemain matin, sortant de la caverne, il voit le soleil. Et la force du soleil rejette dans l'ombre, si j'ose dire, la lune. Mais le soir de nouveau, la lune réapparaît. Alors Abraham comprend que c'est ni le soleil seul, ni la lune seule, mais qu'il y a un principe unique, au-delà du temps à la manière du soleil et du temps à la manière de la lune. Mais ce midrash est important aussi pour sa signification proprement culturelle. Nous savons qu'Abraham est sorti de la civilisation mésopotamienne où les religions dominantes étaient des religions lunaires. Donc, pas seulement se bornant à la manière d'un paganisme rudimentaire, c'était beaucoup plus profond que ça, à adorer l'effigie de la lune, mais ce que la lune représente comme force dans le monde, la force de renouvellement. Et ensuite, il a voyagé en civilisation égyptienne, où les religions dominantes étaient les religions solaires. Et puis, au-delà de ces deux civilisations, il fonde en Israël, entre la Syrie, Assyrie, et en un seul mot, la Mésopotamie et l'Égypte, la civilisation monothéiste d'Israël, avec comme calendrier, un calendrier au-delà de la lune et du soleil. Mais c'est très frappant de voir que, par suite, la tradition musulmane reprendra uniquement le symbole lunaire et la tradition chrétienne uniquement le symbole solaire. En tout cas, pour revenir à l'analyse propre à l'Ecclésiaste, on entend bien dans le texte originel que les termes même employés par l'Ecclésiaste fondent et définissent les coordonnées de sa propre problématique. Il dialogue avec l'homme d'un temps, qui est le temps d'après David, et qui est l'homme qui est tenté par la désespérance, précisément parce que de nouveau percevant cette allure du temps cyclique qui fait revenir tout à sa source et l'on recommence, et donc évacue tout sens d'espérance à la destinée humaine dans le sens d'une messianité positive. Il accepte les postulats de cette problématique, mais pour les pousser à la limite de l'absurde et démontrer qu'il y a une autre problématique. S'il n'y a pas de huitième jour, vous avez raison, mais vous ne savez pas à quel point vous avez raison, le monde est vraiment absurde. Mais il y a un huitième jour, et donc ce ne sont pas tous ces humanismes-là qui peuvent donner un sens à l'histoire, parce que comme tel, ils aboutissent aussi à l'échec dans les coordonnées d'un monde se refermant sur lui-même, et d'où l'exhortation de la fin du livre.
S'il y a un messie, à ce moment-là, il y a une justice, et quid la tête apparaît vite, comme dit notre...
Que le sens de l'histoire a un sens...
Tout ce qui est gâché apparaîtra.
Il y aura un bilan à la fin du septième jour, et passeront au-delà les êtres du monde et qui se seront dirigés vers cette porte ouverte. Ceux qui se seront mis devant des portes fermées resteront devant des portes fermées.
Donc, l'exhortation finale va tout renverser, Léon Ashkenazi. Mais, écoutons, à la fin, cette dernière fulgurante pensée de l'Ecclésiaste, une description de la vieillesse qui passe pour un des sommets poétiques de la Bible.
Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais. Et qu'arrivent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux,
où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où l'obscurité gagne celle qui regarde par la fenêtre. Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l'oiseau, quand se taisent toutes les chansons, quand on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. Et l'amandier est en fleur, et la sauterelle est pesante, et le capre perd son goût, tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs tournent déjà dans la rue, avant que lâche le fil d'argent, que la coupe d'or se brise, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité.
Une émission de Philippe Nemo avec Léon Ashkenazi. Texte lu par Pauline Adrien, François Chaumette et Vera Feder. De son, Gilbert Durand et Robert Gachassin. Réalisation, Albert Morin.